VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiesch et John Linden. Bienvenue dans cette édition du mercredi 21 décembre 2016. Au sommaire ce soir...
RDC, retour progressif à la normale dans le pays alors que le dialogue national doit reprendre aujourd'hui.
Gambie, Yahya Jammeh dit attendre une décision de justice pour déterminer s'il quittera le pouvoir.
Au Cameroun, une pétition remise au président Biya s'oppose à un projet de plantation de palmiers à huile.
En Allemagne, après l'attentat du marché de Noël à Berlin, les enquêteurs recherchent un jeune homme d'origine tunisienne.
L'économie et les sports, juste après le journal.
19 morts et 45 blessés. C'est le bilan de l'ONU sur les manifestations des 19 et 20 décembre 2016 en RDC, à l'occasion de la fin du mandat du président Joseph Kabila. José María Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qu'il a présenté mercredi à Kinshasa, dénonce l'usage excessif de la force par la police, la garde républicaine, la police militaire et l'Agence nationale des renseignements contre les manifestants. On l'écoute au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes très préoccupés par les usages excessifs de la force par les agents étatiques, notamment la PNC, la garde républicaine, la police militaire et l'ANR. Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de morts par balle et nous sommes en train de vérifier encore des autres cas. Aussi, 45 personnes blessées et les chiffres très élevés des arrestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Nous sommes aussi très préoccupés par les restrictions du travail des professionnels des médias, qu'ils ont été arrêtés ou empêchés de faire leur travail, même aussi pour les restrictions au accès des parts et à l'information par notre équipe, soit des droits de l'homme et aussi des autres collègues de la MONUSCO.
Toujours en RDC, l'ultimatum des évêques catholiques à la classe politique pour parvenir à un accord avant Noël. À l'occasion de la reprise des travaux, la Conférence épiscopale nationale du Congo appelle les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition à parvenir à un accord politique avant le 25 décembre prochain, faute de quoi un plan B serait activé. Reportage de Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les évêques souhaitent la fin des discussions avant la fête de Noël. Ils sont également fermes si le plan A n'aboutit pas à un accord, un plan B sera exécuté. Abbé Donatien Chollet est secrétaire général adjoint de la CENCO.
Le simple accompagnateur, là où le peuple souffre, donc les choses prennent une dynamique nouvelle. Le message a été clair, elle tirera les conséquences qui vont s'imposer, vous le saurez.
Et le fait que la CENCO dise que avant Noël, si les travaux ne prennent pas fin, elle va tirer les conséquences, ce ne sont pas des menaces là?
Vous saurez de quoi il est question si jamais on était dans cette question-là. Il y a un plan A, il y a un plan B.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Vous le saurez.
Du côté signataire de l'accord du 18 octobre, l'on s'entend maintenant à un consensus entre la classe politique. Jean-Lucien Boussa.
Les évêques sont d'abord des citoyens congolais. Ce qui se passe dans le pays ne leur est pas étranger. Mais aussi, s'il y a des conséquences négatives, tout le monde les subit de la même manière. Non, je crois que le débat n'est pas celui-là. La question aujourd'hui, est-ce que nous soyons déterminés à trouver une réponse qui s'inscrive dans une dynamique de solutions globales, mais qui s'inscrive aussi dans la durée.
Au rassemblement, la proposition que la CENCO va faire, s'il n'y a pas d'accord, sera examinée à leur niveau. Jean-Marc Kamboun, secrétaire général de l'UDPS.
Nous sommes venus ici pour trouver un accord politique qui va faire partir M. Kabila du pouvoir. Ça doit être bien fixé. Il va quitter. Donc, dans ces cas, moi, je pense qu'une solution que nous proposera la CENCO dans les 48 heures qui suivent, nous allons l'examiner et dès que nous trouverons les comptes du peuple congolais dedans, nous signerons l'accord, il n'y aura pas de... C'est une solution qui sera, au fait, matérialisée par un accord qui, de bonne foi, sera signé. Si un accord ne se signe que de bonne foi, il s'applique de bonne foi.
La commission de 10 personnes qui est mise en place est composée de 5 signataires et 5 autres non-signataires de l'accord du 18 octobre dernier. Depuis Kinshasa, Gino Reema de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Notez par ailleurs que le prélat catholique exige une enquête indépendante sur les événements du 19 et 20 décembre dernier qui ont fait 19 morts selon les Nations Unies.
Toujours en République démocratique du Congo à Goma, dans le Nord Kivu, 20 militants de la Lucha ont été arrêtés aujourd'hui. Dans quelles conditions leur arrestation est-elle intervenue? Nanit Talani a joint depuis Goma Serge Villa, membre de la Lucha.
Oui, c'était en fait en marge de la campagne Bye Bye Kabila que nous avons commencé depuis un mois déjà. Nous avons organisé un sit-in au niveau du gouvernorat de province pour dire à M. Kabila qu'il n'est plus notre président et que nous n'allons pas accepter qu'il puisse diriger contre la Constitution. Et donc, nous étions en train de lancer ce message pour rappeler que ce mandat, son deuxième et dernier, a pris fin et donc il doit quitter le pouvoir. Donc c'était dans un sit-in et après une dizaine ou une vingtaine de minutes, la police a débarqué et les militants ont été dispersés et 20 ont été arrêtés aujourd'hui.
Et où ont-ils été conduits?
Au cachot des renseignements de la police.
Qu'est-ce qu'on leur reproche?
Et là, nous ne savons absolument rien qui est reproché. Tout ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, il suffit de manifester pour être arrêté. Hein, même si les manifestations sont toujours pacifiques, comme la manifestation d'aujourd'hui. Mais c'est là, en quelque sorte, aujourd'hui, une raison de répression, quoi.
Est-ce que vous croyez qu'il pourrait être bientôt relâché?
On ne croit pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés ces derniers jours. Tout ce que nous savons, c'est que nous, on ne va pas lâcher. Il y a beaucoup de militants encore à l'extérieur et donc nous allons continuer la pression.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
On quitte la RDC pour la Gambie où le président gambien donc Yahya Jammeh rejette les efforts visant à le convaincre d'abandonner le pouvoir en janvier prochain suite à sa défaite électorale face à l'opposant Adama Barrow. Les précisions de Nanit Talani.
Le refus de Yahya Jammeh de respecter les résultats de la présidentielle du 1er décembre est un défi à la CEDEAO et au reste de la communauté internationale. À l'occasion d'une rencontre avec des délégués de la Fédération des barreaux africains, le président gambien a réitéré hier soir sa volonté de rester aux commandes à Banjul jusqu'à ce que la justice se prononce sur son recours contre la victoire du candidat de l'opposition. Il y a 4 jours, les membres de la CEDEAO réunis au Nigeria en séance extraordinaire ont annoncé que l'organisation reconnaît M. Barrow comme le vainqueur de l'élection et ont promis de le protéger et d'assister à son investiture le mois prochain. Outre la CEDEAO, l'ONU et des puissances européennes comme la France exigent le départ de Jammeh. Mais ce dernier persiste et signe « Je ne serai intimidé par aucune puissance dans ce monde. Je veux m'assurer que justice soit rendue. » Par ailleurs, l'opposition gambienne a indiqué hier qu'elle privilégie une solution négociée à la crise actuelle, écartant toute menace de poursuite contre le président sortant.
L'île de Sao Tomé et Principe reconnaît désormais la Chine comme un seul pays, rompant par conséquent ses relations diplomatiques avec Taïwan. Une décision saluée aujourd'hui par Pékin via le site du ministère des Affaires étrangères chinois.
Le quotidien gouvernemental ougandais New Vision s'est excusé aujourd'hui pour la publication d'une caricature portant sur le président rwandais Paul Kagame et le génocide de 1994 au Rwanda. Le dessin a déclenché un tollé dans le pays voisin où New Vision a été comparé dans de nombreux tweets au journal satirique français Charlie Hebdo.
Ailleurs dans le monde, le ministre de l'Intérieur allemand a confirmé qu'un nouveau suspect était recherché pour son rôle présumé dans l'attaque au camion bélier du marché de Noël à Berlin, la capitale. Un avis de recherche a été émis pour l'Allemagne, mais aussi pour l'espace Schengen. Le point sur l'enquête après l'attentat qui a été revendiqué par le groupe État islamique, Tatiana Mosso.
Un camion polonais, un chauffeur sans doute kidnappé, un suspect faussement accusé et un Tunisien recherché. Lundi, selon son employeur polonais, le chauffeur attitré du camion quitte son stationnement, parcourt 10 km environ vers un quartier ouest de Berlin. Là, il fonce sur la foule rassemblée sur un marché de Noël. La police retrouve le chauffeur polonais mort, tué par balle. Selon des médias, le conducteur a pu être kidnappé et forcé de conduire le camion vers la foule avant de se débattre et d'être tué. Depuis, un homme d'une vingtaine d'années originaire du sud de la Tunisie est recherché activement. L'homme est connu sous au moins trois identités. La police est remontée jusqu'à lui grâce à un document d'identité retrouvé dans la cabine du camion sous le siège du conducteur. Ce Tunisien aurait entretenu des contacts avec un ressortissant irakien identifié comme Ahmad Abdulaziz Abdullah, alias Abu Walla. Ce dernier a été arrêté en novembre avec quatre complices pour avoir monté un réseau de recrutement pour le compte du groupe État islamique, selon le parquet fédéral.
Ajoutons que la brigade antiterroriste tunisienne a interrogé aujourd'hui la famille du suspect présumé de l'attentat au camion Bélier. C'est ce qu'a indiqué un responsable de la sécurité à l'AFP. Le parquet antiterroriste allemand a identifié dans le même temps le suspect de l'attentat comme étant Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, et publié un avis de recherche assorti d'une récompense.
Les autorités turques suivaient la piste du prédicateur Gulen dans l'assassinat de l'ambassadeur de Russie à Ankara, mais le Kremlin, qui a dépêché en Turquie ses propres enquêteurs, a estimé mercredi qu'il était trop tôt pour désigner les responsables. Ce spectaculaire assassinat est survenu en plein réchauffement des relations entre Ankara et Moscou.
La Minute Éco tout de suite. Et c'est Nani Talani.
On commence avec Coca-Cola. Le géant américain a annoncé le rachat de 54,5% de Coca-Cola Beverages Africa, qui assure la production et la distribution de 40% des volumes de la compagnie d'Atlanta en Afrique, pour un montant de 3,15 milliards de dollars à Anheuser-Busch InBev, leader mondial belgo-brésilien des bières et principal embouteilleur mondial de PepsiCo. Le Bénin prévoit de dépenser jusqu'à 15 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour des projets agricoles, touristiques et d'infrastructures. Selon son ministre des Finances, le pays boostera ses fonds en augmentant les recettes fiscales et les emprunts. Sur les marchés locaux et régionaux, le gouvernement financera environ 40% de son programme de développement, tandis que le secteur privé financera le reste. Enfin, la Libye a rouvert deux de ses plus grands gisements de pétrole et a commencé à pomper son premier chargement en 2 ans à partir de son plus grand terminal d'exportation, alors que le pays déchiré par la guerre poursuit son projet de presque doubler sa production en 2017.
Et la Minute Éco était assurée par Saloua Jafari. Le sport tout de suite avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
On commence avec la Coupe du Roi de football et c'est en Espagne.
La soirée a été tranquille pour l'Atlético Madrid, facile vainqueur 4-1 après le 6-0 à l'aller face à la modeste équipe de 3e division de Guijuelo. Fernando Torres a inscrit le 4e but des Colchoneros avant la mi-temps. On parle de la surprise de la soirée puisque Malaga a été battu par Cordoue lors de ses 16e de finale retour. Malaga qui s'incline 4-3. C'est la première équipe de l'élite à être éliminée. Ce mercredi, place au Barça, double tenant de la Coupe du Roi. Le Barça qui a concédé le nul au match aller, 1-2 contre Hercules, modeste équipe de 3e division. A noter que le Real Madrid a pour sa part déjà décroché fin novembre sa qualification pour les 8e de finale de cette Coupe du Roi grâce à 2 larges victoires contre Cultura Leonesa. Le Real Madrid qui, vous le savez, a remporté le titre de champion du monde des clubs au Japon.
Il y a aussi la Copa Libertadores.
L'équipe paraguayenne du Sportivo Limpeno a remporté la nuit dernière la Copa Libertadores féminine en battant en finale le club vénézuélien de l'Estudiantes de Garrico de 2-1.
Le budget des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo est revu à la baisse.
Oui, le budget des JO 2020 passe désormais sous la barre des 17 milliards de dollars. C'est ce qu'indique le comité organisateur, mis sous pression depuis plusieurs semaines par le CIO pour alléger la facture. Le coût des JO de Tokyo est en effet depuis plusieurs semaines au centre des préoccupations, puisque certains experts estiment que la facture totale avoisinera les 27 milliards de dollars. Ce serait 4 fois plus que le montant initial estimé.
Et puis la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les deux leaders de conférence se sont imposés hier. Plutôt facile pour Golden State qui a surclassé Utah 104-74. Les Cavaliers de Cleveland ont dû cravacher pour aller battre les Bucks à Milwaukee après prolongation 114 à 108. San Antonio a obtenu une victoire précieuse sur le parquet de Houston, 102 à 100. Les Clippers de Los Angeles ont quant à eux dominé Denver, 119 à 102 à Los Angeles. Et puis les Raptors de Toronto ont maîtrisé les Nets de Brooklyn, 116 à 104. Enfin, Boston s'est fait peur avant de battre sur le fil les Grizzlies, 112 à 109 après prolongation.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et John Lyndon en votre compagnie, place au dossier du jour, première escale. La RDC.
La RDC, John, nous allons plus particulièrement, plus précisément à Lubumbashi, où notre correspondant Marval Nabila a parlé avec les Louchois au lendemain du 19 décembre.
Crépitement des balles en rafale ont réveillé le Louchois ce mercredi matin. Les manifestants ne relâchent pas au quartier Jekamine Machipisha, Katuba Upemba, Katuba Kisanga. Témoignage d'un habitant du quartier Jekamine qui s'exprime sous anonymat pour raison de sécurité.
La journée a très mal débuté. Dès le départ du matin, il y a des crépitements de balles, il y a des blessés, il y a des arrestations arbitraires au fait. On ne comprend pas jusqu'à présent. On nous envoie les militaires et la police pour tirer sur nous, en fait. Mais ça nous dépasse beaucoup plus, on ne comprend pas, tandis que nous nous revendiquons nos droits. Nous venons de voir le gouverneur Kazemba en train de venir. En fait, leur marche et consort, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qui peut nous interférer, nous ? Ça ne nous concerne même pas. Parce que ce que nous cherchons, c'est autre chose, c'est l'alternance. Mais ils viennent aussi nous imposer, nous envoyer des militaires et des policiers pour nous tirer. Jusqu'à présent, les gens sont dans leur maison. Ils ne veulent pas quitter les maisons parce qu'il y a des blessés, des morts même là.
En marge de ces événements, une marche qui appelle à la paix a été organisée par le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, du centre-ville vers les lieux de la révolte, Machipisha et Katuba Kisanga. Des incidents se sont produits alors que le gouverneur Jean-Claude Kazembe conscientisait la population à la paix. Entre-temps, la population dénonce la tracasserie policière et militaire dans leur quartier.
Et nous regrettons. On pensait qu'on a mis les militaires devant nous pour nous sécuriser. Et ce sont ceux qui nous intimident maintenant et qui nous mettent dans une insécurité totale. Il y ravit les gens à leur bien. Bon, si quelqu'un passe, on l'interpelle, on le fouille dans ses poches, tout ce qu'il trouve, qu'il prend.
Après, juste les bus de transport au centre-ville pour se rendre du côté péage Kisang. Arrivé au niveau des bifricas, de Kipushi Kasumbalesa. Et il y a eu une troupe de militaires qui nous ont arrêtés avec les chauffeurs. On a ravi les bus et tous les garçons qui étaient dans les bus sous Kraka, on les a emportés en prison.
Polémique autour du bilan, alors que les autorités minimisent, les témoignages de la population seraient entre une vingtaine de morts et des blessés. Suivez le témoignage.
Un garçon de 14 ans, c'est pourquoi le gouverneur a dit que non, il y a un garçon de 14 ans qui était en train de tirer avec les soldats pour récupérer l'arme.
C'est pas comme
ça. C'est pas ça. Le gouverneur n'a pas dit.
Il y a des morts. Si on vous les cache, vraiment, moi je vous l'ai dit, il y a des morts. En face de chez moi hier, nous avons connu un mort, des balles perdues partout.
Qui dit vrai, car le temps est nécessaire à reconstituer la vérité. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte l'ambiance confuse et explosive en RDC alors que le régime réprime la contestation réclamant le départ du président Kabila, dont la fin du mandat officiel est dépassée. Quelle est réellement la situation sur les manifestations meurtrières à Kinshasa, Lubumbashi et ailleurs dans le pays ? Que fait la MONUSCO ? Où en est la médiation menée par les évêques ? Et enfin, quid de l'opposition toujours divisée sur la suite de la transition politique ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Dans le sud-ouest du Cameroun, 244 fermiers ont porté plainte pour violation de propriété contre la Sustainable Oil Cameroun, qui veut planter 20 000 hectares de palmiers à huile. Une pétition signée par 180 000 personnes contre le renouvellement du contrat de la compagnie a été remise aujourd'hui au président Paul Biya. Nathalie Barge a joint à Yaoundé Samuel Ngifo, le secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
le Cameroun, comme les autres pays forestiers d'Afrique, fait face à plusieurs menaces. Aujourd'hui, c'est le palmier à huile qui a le vent en poupe au Cameroun et dans les autres pays de la sous-région. Je trouve que le palmier à huile pousse exactement à l'endroit où pousse la forêt. C'est les mêmes écosystèmes, c'est les mêmes zones qui sont des zones propices à la culture du palmier. Donc pour y arriver, il y a une déforestation de plus en plus forte. Et on peut penser que dans les années à venir, avec l'augmentation de la demande d'huile de palme, il y aura une demande de plus en plus forte pour la terre, les terres forestières. C'est une menace. Il faut réfléchir de manière très urgente pour voir comment canaliser ce développement-là et s'assurer que demain, on n'aura pas remplacé la forêt par des palmiers à huile.
Est-ce que le gouvernement arrive à mettre finalement des garde-fous à cette expansion de ces multinationales, ou est-ce que c'est vraiment une affaire de business et on peut difficilement y faire quelque chose ?
Il faut dire que la politique gouvernementale est une politique d'incitation à l'investissement. Donc, on a très bon œil à arriver des investisseurs dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de l'agro-industrie. Le développement dans l'agro-industrie se superpose à l'exploitation forestière, à la construction des grandes infrastructures, au développement du secteur minier. Et donc, tous ces développements qui surviennent au même moment et qui ont pour espace la zone forestière constituent une menace extrêmement forte qui n'a pas été perçue. Donc aujourd'hui, il faut y aller rapidement et de la manière la plus efficace qui soit pour s'assurer que la forêt ne va pas être sacrifiée sur l'autel du développement.
Est-ce que l'accord avec la SOCFIN, pour vous, est un accord positif, prometteur, en matière de consentement des populations, par exemple, et de la politique zéro déforestation ?
Il est important que les grandes compagnies adoptent une politique zéro déforestation. Il y a des zones forestières qui ont déjà été dégradées et qui, justement, à cause de cela, en raison de cela, peuvent être propices à la culture du palmier à huile sans menacer le reste du couvert forestier. Donc la réflexion sur l'aménagement du territoire devrait aller dans le sens de l'identification de ces zones-là, de l'identification des droits des communautés à ces endroits-là, et on devrait éviter pour les compagnies d'avoir une attitude également autoritaire dans la manière dont elles prennent possession des lieux et dont elles exploitent les lieux. Donc la clé, encore une fois, sur ces questions devrait assurer que les communautés sont associées de manière adéquate.
Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, joint à Yaoundé au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
2016 touche à sa fin et c'est l'occasion de faire des bilans. Le CPJ, le Comité pour la protection des journalistes, relève une baisse dans le nombre de travailleurs de la presse tués en 2016. On revient sur ce rapport du CPJ avec Gaby Dorsil.
Au premier trimestre de cette année, la Voix de l'Amérique a perdu un des siens. Le journaliste indépendant Al-Migdad Mojali, qui a couvert le Yémen pendant 3 mois pour la VOA, notamment l'impact humanitaire de la guerre, a été tué lors d'un raid aérien de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Mojali est l'un des 48 journalistes morts en 2016, soit assassiné, pris dans un feu croisé ou tombé sur le front ou lors d'une mission dangereuse, selon les nouvelles données publiées par le Comité pour la protection des journalistes. Si globalement le nombre est en baisse par rapport aux années précédentes, Courtney Redge, membre de la direction du CPJ, a dit à la Voix de l'Amérique via Skype que les raisons ne sont pas tout à fait claires. Une chose que vous pourriez extrapoler, c'est que dans certains conflits, il est devenu si incroyablement dangereux d'être journaliste qu'il y a tout simplement moins de personnes faisant ce métier, a-t-il fait remarquer. C'est surtout le cas dans les zones ravagées par la guerre à travers le Moyen-Orient. Plus de la moitié des personnes tuées étaient en mission en Syrie, au Yémen ou en Irak. Rien qu'en Syrie, 14 journalistes sont tombés dans l'exercice de leur profession. Ce pays détient le record pour la 5e année consécutive. Mais même dans les endroits où les journalistes sont moins susceptibles d'être pris pour cible, diverses formes de censure ou d'intimidation sont répandues, comme par exemple en Turquie, où l'on a recensé près d'un tiers des journalistes emprisonnés dans le monde, selon le CPJ. De nouveau, Courtney Raj.
We see that conflict zones continue to be very deadly and dangerous for journalists.
Nous constatons que les zones de conflit continuent d'être très dangereuses pour les journalistes. Mais nous voyons également se produire une répression qui se manifeste par la censure de la presse et le contrôle du discours sur les médias sociaux. Steve Raymer est un professeur de journalisme. Dans un entretien via Skype, il explique comment les gouvernements ont trouvé des moyens moins difficiles pour censurer les journalistes. Un exemple, la Russie. Il n'y a pas eu de meurtre de journaliste en Russie depuis 2013, selon ce rapport, souligne M. Raymer. Mais la Russie a adopté une législation beaucoup plus dure pour faire taire les journalistes et les critiques, en sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir au meurtre. Le CPJ a constaté qu'environ 9 sur 10 des journalistes tués étaient locaux et non étrangers, une statistique conforme aux tendances historiques. Des groupes politiques, parmi lesquels des organisations militantes islamistes, ont été trouvés responsables de plus de la moitié de tous les meurtres en 2016.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après, troisième épisode de notre série VOA Afrique consacrée à l'épidémie. Elle s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016. Et il s'agit de la plus grave jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées quasi exclusivement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 ont trouvé la mort selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 ans après le début de cette crise sanitaire sans précédent, comment vivent les survivants? Où en est la recherche scientifique? Le monde est-il prêt à faire face à la prochaine épidémie? VO Afrique a mené l'enquête en Guinée et en Europe auprès de ceux qui étaient en première ligne de la lutte contre Ebola. Zakaria Camara s'est rendu à Kizidougou, en Guinée, pour observer le niveau de suivi des patients guéris d'Ebola.
Tous les jours, Madame Thérèse Soropogui communique avec les guéris d'Ebola de Kishidougou.
Si par exemple c'est quelqu'un, c'est un guéri qui est malade, on met une équipe d'investigation sur le terrain. On oriente ce malade vers la structure la plus proche. Ça peut être un poste de santé ou un centre de santé. D'où on fait une prise en charge. Et si au niveau de ce poste, il ne peut pas faire la prise en charge, on oriente immédiatement au niveau de l'hôpital.
27 au total, ces anciens malades surveillent au quotidien leur communauté. Objectif, remonter toute information importante à la direction préfectorale de la santé.
Ils nous appellent pour nous dire s'il y a des événements. Ces événements peuvent être soit s'il y a un décès au niveau de leur communauté, s'il y a même des guéris d'Ebola qui tombent malades, s'il y en a, ils nous informent. Et s'il y a quelqu'un aussi qui est venu d'une zone affectée ou bien un étranger est venu au niveau de la communauté, il nous informe.
Si l'information concerne un guéri d'Ebola, il est ensuite conduit vers le centre le plus proche pour une prise en charge gratuite. Depuis sa sortie d'un centre de traitement, Farah, élève de secondaire, assure la surveillance dans son quartier.
On nous a octroyé des crédits et l'argent pour les appeler. S'il y a des cas de maladie, on les informe. S'il y a des cas de décès, on les informe. Et si on reçoit aussi des étrangers, on les informe.
Ebola avait mis à nu la faiblesse du système sanitaire guinéen. La maladie a fait plus de 2500 morts. Pour éviter toute surprise, des centres de traitement épidémiologiques sont installés dans tout le pays. Du retour de Kissidougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma était à la mise en onde, à la console, Thomas Blondette. Présentation, Anastasie Tudiech et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez avec nous vos impressions, vos photos, posez-nous des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.